Actu SF, les podcasts.
Bonjour, merci de nous avoir rejoints sous ce Magic Mirror pour cette rencontre avec Fabrice Colin. Je suis ravi de retrouver. Ça fait quelques années que Fabrice n'était pas venu aux Imaginales, je crois, et on le retrouve avec plaisir. J'ai commencé par un souvenir personnel, puisque moi j'ai découvert Fabrice au tout début des Imaginales. J'étais encore un simple festivalier et j'avais acheté un roman qui s'appelait Or Not To Be, qui nous emmenait dans l'univers de Shakespeare et qui prenait ensuite son envol. Et puis Fabrice, c'est un auteur qui a beaucoup voyagé à travers les genres littéraires, à travers les expériences différentes et variées, et qui nous revient cette année avec Golden Age, un roman paru au rayon imaginaire chez Hachette, et qui marque son grand retour à la littérature d'imaginaire adulte, à la fantasy adulte. Et on va évidemment parler beaucoup de ce roman, mais on va quand même commencer justement par cette carrière si particulière, Fabrice. D'abord, comment êtes-vous devenu écrivain? Qu'est-ce qui vous a amené à la littérature? Et pourquoi, plus spécifiquement à l'origine, la littérature d'imaginaire?
Je fais partie de la génération jeu de rôle, comme on dit un petit peu, qui a vu éclore un certain nombre d'auteurs de littérature d'imaginaire, comme Mathieu Gaboury, Pierre Grimbert, Jaworski, Calvo, etc. Pas mal de monde. Et moi, j'étais dans ce continuum-là, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire des scénarios très tôt, et il y avait vraiment collusion entre le jeu de rôle et la littérature au sein des éditions Multisim, éditeurs de jeux de rôle, qui étaient, auxquels étaient adossées les éditions Mnemos, qui faisaient du roman. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Moi, j'étais pratiquant, je ne sais pas si on dit ça, joueur de jeux de rôle en tout cas, dès l'âge de 12-13 ans. J'ai écrit dans des magazines et pour des maisons d'édition de jeux de rôle dès l'âge de 16-17 ans. Et j'ai publié mon premier roman aux éditions de Nemos à 26 ans, donc il s'est passé un peu de temps. Mais il y avait une progression naturelle vers ça. Simplement, c'était presque quelque chose à un niveau pragmatique. Moi, j'étais physiquement dans une maison qui faisait les deux. Et comment dire, c'était les éditions de Nemos, les éditions ici, mais étaient dans le 5e arrondissement. C'était une vieille maison de mousquetaires, passage du Clos Bruno, près de la rue des Écoles. Et on était là, donc, avec notamment Mathieu Gaboury, qui était vraiment mon grand copain, sous la houlette de Stéphane Marsan, et avec David Calvo, Pierre Grimbert, enfin des gens qui passaient comme ça, et voilà. Et ça a commencé comme ça, presque naturellement, parce qu'à un moment, on m'a dit t'écris des scénarios, tu as de l'imagination, t'es dans le monde, ton boulot est d'inventer des mondes et des histoires, etc. Donc pourquoi tu écrirais pas un roman? Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi.
Alors, j'allais dire, toutes les voix sont singulières, mais finalement, la vôtre est quand même très particulière. Moi, j'ai des souvenirs de Or Not To Be, mais j'avais lu avant Sayonara Baby, roman post-apo, gentiment déjanté, on va dire ça comme ça, un peu Mad Maxien sur les bords. Je m'étais dit, ouais, c'est des univers pas ordinaires, c'est des idées intéressantes, il y a une plume, il y a vraiment quelque chose qui m'intéressait. On est toujours dans cette idée que les littératures de l'imaginaire, c'est de la sous-littérature, que les auteurs d'imaginaire ne savent pas écrire, etc. C'est des questionnements aussi que vous vous êtes posés à l'origine.
Oui, parce que de toute façon, il y a en librairie un rayon qui s'appelle improprement souvent science-fiction, et puis un rayon littérature générale. Comme s'il fallait choisir son camp, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les pays anglo-saxons. Et puis, il y a un certain nombre de romans. En fait, on est sommé de choisir un petit peu, de choisir son camp. Et moi, j'ai choisi le camp des littératures de l'imaginaire en termes d'éditeur au départ, parce que c'était là où j'avais mes copains, et c'était là où je me sentais bien, et c'était là où je sentais une bienveillance du milieu éditorial, du lectorat, etc. Et c'est une impression qui s'est jamais vraiment complètement démentie, en vrai, parce que, on en parlera peut-être après, il y a eu des incursions en littérature générale, mais le milieu de la littérature générale est un lieu dans lequel moi je ne me reconnais pas des masses. Je ne parle pas du tout en termes de ce qui est publié, mais en termes, s'il faut parler de milieu, il y a un snobisme.
L'ambiance n'est pas tout à fait la même.
Non, bah, on voit bien. Enfin, moi, ça fait 9 ans que je ne suis pas revenu ici, et puis bah, je reviens toujours avec le même plaisir, parce qu'il y a des copains, et puis on voit, enfin, les gens viennent, les lecteurs, les amateurs de genre viennent avec vraiment de la joie au cœur en se disant « Ah, on est bien ici, etc. » La littérature générale, hein, c'est différent. On va voir tel ou tel auteur. Les gens se mélangent très peu. Ce soir, on a une soirée auteur. On sait très bien que tout le monde va se mélanger, quel que soit, sans considération de chiffre de vente, de où est-ce que vous êtes publié, de c'est quoi votre carrière. On s'en fiche un peu. En littérature, c'est moins vrai. Alors, ça peut paraître anecdotique parce que bon, ben, c'est pas ça le fond du truc, mais comme on est quand même censé choisir, moi, les livres que vous citez, Or Not To Be, Sayonara Baby, c'était aux éditions de La Talente. C'est des livres qui auraient pu, à certains égards, paraître en littérature générale, mais on en a beaucoup parlé avec l'éditrice d'ailleurs, et ben, j'avais pas vraiment envie parce que je me sentais pas. Je ne sentais pas que c'était ma maison, quoi. Voilà. Moi, j'ai réellement grandi avec la fantasy, le fantastique, la science-fiction. Et donc, naturellement, j'ai commencé à publier là-dedans. Même si par la suite, mes goûts personnels en tant que lecteur m'ont porté vraiment vers la littérature générale, je suis quand même resté longtemps dans bon, la littérature de genre. Ouais.
On y reviendra parce qu'il y a même aussi une expérience éditoriale chez Super 8. Hein. Bon, on pourra également dire un mot là-dessus. Mais d'abord, justement, quand je vous entends, je me dis, mais comment s'est passé le virage qui, justement, vous a emmené à un peu laisser derrière vous l'imaginaire en tant qu'écrivain et passer à autre chose? Il y a eu La Blanche, mais il y a eu le thriller aussi chez Sonatine. Qui est aussi une belle expérience, en tout cas pour le lecteur que je suis, et une belle rencontre là aussi. Mais ça n'est pas forcément là où on vous attendait.
Je vais paraphraser Edouard Baird dans Astérix, c'est des rencontres, quoi. Mais il y a un côté... bon, c'est vrai, c'est un peu cliché, mais j'habite à Paris. Il y a eu un moment, j'ai fréquenté pas mal de soirées entre guillemets littéraires, pas nécessairement organisées par des éditeurs, mais chez des amis, chez des traducteurs. Par exemple, j'ai rencontré mon éditrice de chez Actes Sud, chez Claro, qui est un copain traducteur, etc., qui habitait à 200 mètres de chez moi. Bon, c'est comme ça que des fois les choses se font. On discute, on raconte ce qu'on fait, on se rend compte qu'on est en train de parler à quelqu'un qui est en réalité une éditrice ou un éditeur. C'est comme ça que j'ai rencontré Arnaud Hofmarcher des éditions Sonatine aussi. Et moi, je ne me suis jamais senti appartenir à un genre au sens où je suis obligé de publier là-dedans, sinon les gens vont être très fâchés. J'ai jamais trop, et je pense que ça a été un tort et ça a pu me causer du tort, je n'ai pas construit de carrière d'auteur en disant « fais ceci et après fais cela et ensuite tu reviens pas là », etc. C'est vraiment l'occasion fait le larron, et si j'ai envie d'écrire un bouquin chez un tel, bah, je le fais, et puis voilà. Il y a un peu, bah, tant que les gens sont d'accord pour me publier, je continue. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est aussi, parce que dans votre question, il y a pourquoi vous allez vers d'autres choses, bah, parce que c'est tout bête, mais parce que tout m'intéresse et parce que je me dis, bah, je fais de la fantaisie, tiens, j'ai aussi d'autres aspirations. Je vais faire de la science-fiction pour la jeunesse et puis... Je grandis, je vieillis, je lis des choses aussi qui me portent vers d'autres domaines. Et voilà, il y a tout un bel
instrument. Passion pour la musique aussi qu'on retrouvait un peu dans certains des thrillers.
Oui. Il y a eu un moment, je me suis posé la question parce que je commençais à écrire un peu des chroniques musicales dans des journaux, etc. Mais bon, voilà, on peut pas tout faire. Mais oui, pour moi, il y a aujourd'hui, j'écris. Ça va des albums pour enfants aux livres pour adultes, en passant par de la BD, du journalisme. Bon, donc, en fait, tout ce qui touche à la création littéraire, voilà, m'intéresse, quelle que soit.
Et même quand on regarde la création littéraire jeunesse, c'est là aussi extrêmement varié. Hein. Ça va, là encore, de l'imaginaire, pour jeunes lecteurs ou pour lecteurs un peu plus âgés, mais ça va aussi des expériences assez étonnantes. Je crois que vous avez écrit sur le football, qui est aussi une de vos passions.
Oui, alors bon, ça c'est un truc particulier, ça reste une commande, mais disons que les amateurs de foot dans les milieux littéraires, c'est deux choses qui ne sont pas censées être très compatibles. Il y a un petit snobisme en France par rapport à ça, et donc quand à un moment des éditeurs cherchaient un mec qui sait à peu près écrire et en jeunesse et qui aime bien le foot, il n'y avait pas 50 noms visiblement, donc voilà. Mais bon, ça m'a fait plaisir parce que en même temps, par exemple, voilà, moi j'ai écrit des bouquins qui sont signés Antoine Griezmann. C'est voilà. Mais et je me suis rendu compte et je le vois dans les commentaires, notamment sur les sites de vente, etc., que d'abord, j'avais une certaine liberté pour écrire ces trucs-là, c'est-à-dire que j'avais vaguement un contact avec la sœur de Griezmann qui me disait, bon, en gros, faut pas qu'ils prennent de cocaïne, mais sinon, le reste, tu fais ce que tu veux. Donc, j'ai collé aux faits footballistiques, mais le reste, j'ai un petit peu inventé, donc il avait des petites copines, des choses comme ça.
Il y a quand même les cheveux roses en ce moment.
Ouais, il y a un peu de tout. Mais ensuite, je me suis rendu compte que ça, pour le coup, c'était des livres que des jeunes allaient demander à leurs parents, par exemple en supermarché, etc., des gens qui lisent pas, qui s'intéressent pas à grand chose en termes de lecture, et ils veulent le bouquin de Griezmann ou le bouquin de Mbappé parce que ça les intéresse. Et vu comment se sont vendus ces bouquins, s'il y a un lecteur sur 100 qui est ensuite passé à de la littérature au sens plus noble du terme, ben c'est déjà pas mal en fait. Voilà. Mais c'est pas la vraie raison pour laquelle j'ai fait ça. La vraie raison, c'est parce qu'on me l'a demandé. La deuxième raison, c'est parce que c'était payé. Enfin voilà. Mais moi, j'ai aussi cette comment dire, ce côté pragmatique. Je vis de l'écriture. Enfin, je vis de tout ce qu'on a dit là de façon générale. Et il y a des moments. Soit vous êtes Guillaume Musso, soit vous trouvez un autre moyen pour gagner de l'argent. Et c'est et une production abondante, et parfois essayer de mettre ses billes au bon endroit. Là, c'est quelque chose de très pragmatique, qui n'est pas tabou pour moi, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet.
Alors parlons un peu, parce que la rencontre avec Sonatine a donc débouché sur une expérience éditoriale, cette fois-ci pas en tant qu'auteur, mais en tant qu'éditeur, à travers une collection qui s'appelait Super 8, qui était, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la volonté justement de Sonatine de quitter un peu le noir et le thriller et d'aller un peu plus vers justement le fantastique et des genres un peu plus proches de l'imaginaire, où vous avez publié de très très jolies choses, réédité même certaines choses. Moi, je me souviens de Cartier le Diable, que j'avais lu dans sa première édition française et que j'étais ravi de retrouver parce que c'est un bouquin absolument formidable. Et c'était quoi alors là c'était carte blanche un peu à Fabrice Colin.
C'était décloisonné en fait. Et je pense que en fait, on partait du constat qu'à l'époque, donc c'était les années 2014-2015 par là. Il y avait dans les séries télé, notamment, moi je me souviens, j'avais été très marqué par The Walking Dead, parce que tout à coup, les zombies devenaient un truc grand public, quoi. Et il faut quand même se souvenir de ce que c'était dans les années 80-90, moi, enfin, tous les films d'horreur, etc., ou les trucs d'extraterrestres, bon, nous on regardait ça un peu sur des cassettes VHS sous le manteau, on était des nerds, quoi, et soudain ça s'est démocratisé, et avec des séries comme Lost, comme Walking Dead, comme évidemment Game of Thrones, on s'est rendu compte que tout à coup, la surnature, l'imaginaire rentrait vraiment dans la culture mainstream, quoi. Et donc nous on s'est dit, en littérature il faut commencer à arrêter de se prendre la tête et pas dire c'est tel genre, c'est bon, mais dire simplement nous c'est des bouquins qu'on a bien aimés, on va les publier dans cette collection là et il y avait plein de choses. Il fallait toujours qu'il y ait un élément un peu zarbi ou surnaturel, parfois ça l'était beaucoup. On a publié des bouquins super, donc moi je suis très fier notamment un truc qui s'appelait Déchiré, où c'était un truc d'apocalypse zombie, où les seules personnes qui n'étaient pas transformées en zombies, c'était les personnes qui prenaient de la drogue. Et donc les gens étaient obligés de se défoncer tout le temps pour ne pas devenir un zombie. Voilà, c'était ce genre de choses. On a refait du Jim Dodge et compagnie. Enfin, y a eu des super livres, mais ça a pas. Enfin, Sonatine a été et Super 8 racheté par Editis. Et je pense que, enfin, c'est très prétentieux de dire ça, mais je pense qu'on avait quelques années d'avance. Ça a pas été complètement perçu correctement par les grands patrons, parce que les ventes, même si elles étaient honorables, n'étaient pas dantesques. Ils s'attendaient au même succès que chez Sonatine. Mais Sonatine, au bout de 3 livres, ils en ont sorti un qui s'est vendu à 200 000 exemplaires. Donc c'était un peu faussé. Et on sait très bien comment ça marche dans ce genre de process. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il vous faut un best-seller pour qu'on vous foute un petit peu la paix. On a fait la BD Fight Club, la suite de Fight Club de Palahniuk, qui a pas mal marché, mais qui a coûté assez cher. Et ça n'a pas suffi. Et donc ça s'est un petit peu terminé en eau de boudin. C'est pas officiellement mort, mais ça s'est arrêté, quoi. Et ça m'a rendu vraiment triste, parce que...
C'est dommage.
En tout cas, les gens pour qui la rencontre s'était faite avec cette maison d'édition, ils comprenaient ce qu'on faisait et ils étaient prêts à acheter les yeux fermés, mais il n'y a pas eu assez de gens.
Mais ils ont encore ça dans un coin de la tête, parce qu'ils publient de la fantasy urbaine maintenant, donc c'est assez intéressant. Moi, j'avais été très surpris de découvrir ça aussi chez Sonatine, que je n'attendais pas. Il y a une autre expérience, j'imagine, qui a dû être très intéressante et très instructive, c'est celle de scénariste de bande dessinée. Là aussi, c'est un métier différent quand même de celui d'écrivain, c'est autre chose. Ça demande à la fois une collaboration avec... Donc, il faut une rencontre, il faut une harmonie, il faut une adéquation entre au moins deux personnes. C'est autre chose que d'être dans son coin, sur son bureau. Et puis
oui, c'est une des raisons pour laquelle on peut vouloir faire de la bande dessinée quand on est écrivain, c'est qu'au moins, on ne sera plus tout seul. Même si, dans les faits, on peut quand même continuer à l'être, parce qu'en vrai, on envoie des scénarios à des gens qui, parfois, qu'on peut ne pas voir. Moi, j'ai fait une BD... pendant le confinement, Seul le silence, une adaptation, et j'ai rencontré l'illustrateur une fois que la BD était terminée. Bon. Mais malgré tout, il y a une aventure commune. Et moi, qui n'ai absolument aucune appétence pour le graphisme, je suis toujours émerveillé quand n'importe qui décide n'importe quoi, en gros. C'est-à-dire que même une couverture de roman ou tout ça, elle aura plus forte raison une bande dessinée, des choses qui viennent de moi et qui sont transcrite picturalement, je suis toujours émerveillé. C'est d'ailleurs un problème, parce que je devrais être un peu moins ravi de la crèche et dire c'est pas terrible. Mais quand comme je connais pas ce milieu, les mariages sont faits par des éditeurs qui disent pour tel texte on pense à un tel ou un tel, et donc je découvre un tel en question. Et ce que je veux, moi, c'est que la personne soit contente, épanoui, parce que c'est un métier de forçat, dessinateur de BD. Moi, scénario de bande dessinée, je l'écris, je devrais pas dire ça, mais j'écris en 3 semaines à peu près. L'illustrateur, il va être un an dessus, quoi. Donc faut être très gentil. Moi, j'essaye. Et en tout cas, il faut qu'il se sente bien dans ce qu'il fait, qu'il soit content de faire ce qu'il fait. Et donc, dans la rencontre, il y a d'abord quelque chose de l'ordre, je ne vais pas dire de la séduction, mais en tout cas d'apprivoiser l'autre et de lui dire, bon, quelle est ta façon de travailler, ce texte-là, comment tu l'envisages, qu'est-ce que tu attends de moi en termes d'indications scénaristiques, est-ce qu'il faut que je sois sur ton dos, est-ce qu'au contraire, il faut que je te laisse une liberté totale. Et ça, c'est très marrant, parce que c'est des expériences différentes à chaque fois. Une des premières BD que j'y vais, je suis de Noël Graphic, qui s'appelle World Trade Angels, qui était un truc sur 11-7 ans, avec un dessinateur très étrange, qui était un mec qui faisait des petits dessins pictographiques dans le New Yorker. Et c'était un type qui avait absolument besoin de liberté. Et donc j'ai mis un moment à comprendre que ce qu'il voulait que je lui fournisse, c'était une continuité, un genre de roman un peu dialogué, et qu'il allait se débrouiller avec ça. Mais dès que je lui disais, alors là, il pourrait y avoir un building, oula, c'est... Alors là, on se souvient que c'est à New York. Et là, je pense que 6 pages, ça serait bien. Ouh là là, t'es très directif. Donc bon. Et à côté de ça, il y a des gars, au contraire, qui veulent connaître Ah oui, il y a une table de nuit, mais la lampe de chevet, c'est quoi comme lampe? Voilà. Donc, c'est, vous avez raison, c'est complètement un autre travail, mais ça m'intéresse pareillement, quoi.
Ah, vous voyez, hein, vous avez un écrivain ici qui a beaucoup évolué, changé de direction, revenu, mais sans jamais ni se renier, ni oublier d'où il venait. Et puis, nous revoilà dans l'imaginaire, quelques années plus tard, puisque ça faisait, au moins pour la fantaisie adulte, ça faisait un bon petit moment maintenant que vous n'aviez pas publié dans ce genre-là, avec Golden Age. Et j'avais envie qu'on s'arrête évidemment un peu plus longtemps sur ce nouveau roman, qui nous emmène dans une Angleterre un peu à la Downton Abbey.
Ouais,
même si
peu,
c'est,
ouais.
C'est pas tout à fait le même milieu social. En tout cas, dans cette période du début du XXe siècle, même si on verra que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, dans quelque chose, alors, dans ces cottages anglais à la campagne, où on s'attend à ce que le colonel Moutarde frappe avec le chandelier dans la bibliothèque. Mais on va à la rencontre d'un personnage qui est cet homme que... Le personnage que nous suivons au début du roman vient voir et vient rencontrer.
Oui, alors bon, déjà, il faudrait parler du retour à l'imaginaire. Comme vous l'avez dit, il n'a jamais été complètement quitté, mais il faut assumer de revenir chez un éditeur qui publie des littératures de l'imaginaire, le rayon imaginaire, bien nommé. Et au départ, oui, c'est un récit qui est au confluent de la littérature blanche et de l'imaginaire malgré tout. Mais bon, il faut voir ce qu'on entend par là. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une question complexe. Est-ce que parce qu'il y a de la surnature, on est en littérature générale, en littérature de l'imaginaire? Pas forcément, parce que évidemment, il y a un certain nombre de bouquins de littérature. De l'imaginaire qui sont publiés en littérature générale. En tout cas, il y a des éléments. Si, par exemple, la science-fiction, et je pense que c'en est, ça fait partie de la littérature de l'imaginaire, alors il y a un certain nombre de gens qui, à commencer par Houellebecq ou Margaret Atwood ou des gens comme ça.
Le Tellier.
Oui, Le Tellier, enfin voilà, du fantastique. Il y en a pléthore dans les collections de littérature générale. Donc là, on arrive chez un éditeur de littérature de l'imaginaire, mais là aussi, c'est une rencontre aussi avec l'éditrice, présente dans cette salle d'ailleurs. Elle ne se dénoncera pas. Avec une envie aussi de décloisonner et de dire, bon, on a des histoires à raconter. Nous, on aime l'imaginaire. Moi, j'aime l'imaginaire au sens où... au sens de liberté. C'est-à-dire que si j'ai envie de croire que les fantômes existent, bah, peut-être qu'ils existent ou peut-être qu'ils n'existent pas, mais je veux me laisser cette possibilité-là. Et ça, déjà, ça qualifie un récit comme récit de l'imaginaire, peut-être, même si c'est vraiment à bas bruit, quoi. Et si ça suffit pour qu'on soit dans l'imaginaire, et si on peut écrire un récit où peut-être tout se passe dans la tête des personnages, ou peut-être pas, mais que ça suffit malgré tout, et si on rencontre une éditrice qui est d'accord avec cette conception-là de l'imaginaire, alors refaisons de l'imaginaire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément prêt à écrire un roman de fantasy, bon, encore qu'il ne faut pas insulter l'avenir, j'en sais rien, mais en revanche, je pense que oui, revenu, entre guillemets, de la littérature blanche avec... un certain nombre d'apprentissages, de leçons qui ont été tirées, réinjecter ça dans un livre de littérature de l'imaginaire, qui sera classé en littérature de l'imaginaire, ça m'intéresse. Mais en fait, encore une fois, on est dans des choses techniques, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est est-ce que ce livre, il est là, à sa bonne place, est-ce que les gens vont venir le chercher ici, est-ce qu'on va réussir à expliquer aux gens ce que c'est. Moi, je suis persuadé, enfin... dans mon expérience d'écrivain, que oui, alors il y a des bons livres et des livres qui sont un petit peu moins bons, c'est une notion quand même assez subjective, mais parfois il y a des choses qui s'imposent, mais la question c'est, est-ce que les gens vont trouver le livre? Ça m'est arrivé d'avoir des livres pour lesquels l'accueil critique a été excellent. C'est-à-dire, les gens qui le lisent sont très contents, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et inversement, vous pouvez avoir des grands succès de librairie. Je ne vais pas citer de... On ne va pas être méchant, mais il y a des livres qui vendent beaucoup. Les gens sont contents, ils ont lu ça, mais en fait, ça ou rien. Enfin bon, ils ont lu ça, quoi. Ça n'a pas été un déplaisir, mais ça n'a pas non plus été une expérience qui aurait pu, on ne va pas dire changer leur vie, mais en tout cas offrir des perspectives. Voilà. Et moi, il n'y a rien tant qui m'intéresse dans la littérature que d'aller toucher les gens. Et c'est peut-être un défaut, mais c'est vrai que je préfère toucher 1000 personnes qui vont vraiment beaucoup aimer que peut-être 20 000 qui vont dire « Oh, j'ai passé un bon moment, merci, au revoir ». Au suivant. C'était en musique, c'est le Velvet Underground qui. Laurie disait ça, il disait à notre concert, il y avait 1000 personnes, mais les 1000 personnes ont fondé un groupe. Voilà. Et contrairement à d'autres. Donc, il y a ce côté, il faut faire quelque chose qui compte, qui touche les gens, et peut-être après qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui peuvent être touchés, on essaye d'élargir. Et on fait confiance aussi à l'intelligence du lectorat en général en disant allons chercher le plus grand nombre avec quelque chose qui est peut-être un petit peu compliqué ou exigeant, mais l'amour du lecteur et le respect du lecteur, de mon point de vue, il ne consiste pas à lui donner ce qu'il attend, il consiste à lui tendre une main en disant viens avec moi, je vais t'emmener dans un endroit super, et plutôt essayer de tirer quelqu'un vers le haut sans flagornerie que essayer de lui dire, bon, t'aimes bien de la merde, bah, on va t'enfiler. Quoi.
Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Alors, revenons à notre,
oui,
à notre
pardon,
cottage. Non, il n'y a pas de souci, c'était très intéressant. Et puis, en plus, c'est dans la ligne de certaines tables rondes de cette journée et même de cette édition des Imaginales. Et je pense qu'elles se renouvelleront aussi parce que je pense que les relations, justement, et la question des genres littéraires va être de plus en plus prégnante. Revenons à notre cottage et donc à ce personnage qui y vit. Qui est-il, ce vieux monsieur ?
Alors, bon, c'est un roman, Golden Age, qui est un roman à clé, mais si on n'a pas les clés, c'est pas grave. On va pas être devant des portes fermées, simplement, ça participe du plaisir qu'on peut avoir à la lecture quand on se dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc, il y a des personnages, bon, là, en l'occurrence, il y a un personnage qui est un petit peu un double de Kenneth Graham, qui est l'auteur du Vent dans les Saules. Et il y a quatre messieurs assez âgés, dont la carrière, disons, est plutôt derrière eux, qui vont se retrouver pour essayer de comprendre justement pourquoi ils ont un peu perdu le feu sacré, pourquoi l'inspiration semble leur échapper. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne comprennent plus ? C'est une thématique assez actuelle, hein, aussi à d'autres égards. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de leur échapper, tout simplement ? Et ces messieurs sont les doubles fictifs d'écrivains pour la jeunesse anglais connus. On peut les citer. Hein. Enfin, bon, il y a trois Anglais et un Américain. L'auteur, James Barry, c'est Peter Pan. Lewis Carroll, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et Frank Baum, c'est le magicien d'Oz, qui arrive un petit peu plus tard. Et Kenneth Graham, donc, c'est Le Vent dans les Saules, qui est parmi ces œuvres-là, celle qui est la moins connue en France, mais qui est en Angleterre, quelque chose qui fait vraiment partie du patrimoine culturel. C'est vraiment un livre important et un truc un peu élégiaque sur la vie à la campagne, baignée de mystères, etc. Il faut quand même rappeler que les Pink Floyd ont nommé leur premier album en hommage à The Piper at the Gates of Dawn. C'est référence au Vent dans les Saules. Et donc, ce sont ces quatre vieux monsieur. Ce ne sont pas eux les personnages principaux, mais disons qu'ils sont ils constituent un décor de gens qui ne comprennent plus trop ce qui se passe. Quoi. Bon. Et qui veulent faire revenir l'inspiration. Et qu'est-ce que c'est l'inspiration ? Ça, c'est une des questions du livre.
Alors justement, c'est là où le titre est intéressant, Golden Age, l'âge d'or. On sent d'emblée que cet âge d'or, il est quand même derrière. Même ne serait-ce que l'image mentale qu'on peut se faire de cet endroit, on a l'impression, avec d'un début de décrépitude. Je suis peut-être un peu violent dans la manière de présenter les choses, mais il y a quand même un petit peu de ça. Il y a une fin de règne, on va dire, hein, dans cet aspect-là. C'est un roman sur le désenchantement, dans tous les sens du terme en plus.
Alors oui et non, parce qu'il y a un personnage qui arrive là-dedans, qui s'appelle Béatrice, qui va être un peu témoin de tous ces bouleversements, et qui elle-même se pique d'écriture, et elle incarne l'avenir, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont en train de perdre la foi ou l'inspiration que la littérature est morte, et elle incarne un après, etc. Mais on va pas vraiment la voir en action là-dedans. Sauf peut-être à se dire que si ça se trouve ce livre c'est elle qui l'a écrit, mais bon, ça c'est encore une autre question. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire il y a une tradition de narration purement en l'occurrence qu'à littérature pour la jeunesse, mais même si on élargit ça, c'est une littérature qui raconte des belles histoires et qui n'a pas à prendre en compte la politique ou la sociologie, etc. C'est simplement le plaisir de raconter des histoires. Si on fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, même si là j'avais mon rédacteur en chef à lire qui me dit « Oh, la fiction revient », j'ai « Ah bon ?» Enfin, en tout cas, la fiction pure, quand on regarde les livres de la rentrée littéraire, il y a beaucoup de livres qui sont ancrés dans l'époque, c'est-à-dire ce sont des témoignages, ça reste de la fiction, mais enfin, on va s'inspirer de tel ou tel fait divers ou de telle ou telle problématique actuelle. Et bonne chance aujourd'hui, en littérature générale, à quelqu'un qui veut écrire un livre totalement décorrélé du présent, quoi. On peut, hein, évidemment, des gens le font, mais bonne chance malgré tout, c'est pas évident. Et alors, il y a cette fin de, comment dire, qu'on a vu dans tous les arts après 14-18, puisque c'est ça le sujet, c'est ça qui menace. Il y a une guerre qui arrive, et avec elle, c'est ce que dit un des personnages dans le Titanic de James Cameron, qui symbolise bien ça, même si c'est pas tout à fait les bonnes dates. Le bateau est en train de sombrer, il y a des assiettes en porcelaine qui sont en train de se fracasser, etc. Et il y a un type qui est en train de réciter des versets, je crois, du livre de l'Apocalypse, et qui dit « J'ai vu périr le monde ancien », etc. Et ça, je trouve que c'est une scène très forte, parce que oui, ça, c'est le Titanic, si on veut, la Première Guerre mondiale, c'est la fin, la vraie fin du 19e siècle, elle est là, quoi. Et ensuite, moi qui me suis beaucoup intéressé, par exemple, à la peinture figurative du 19e, les pré-raphaélites, notamment, sont des peintres qui tombe complètement en désuétude après 14-18. C'est-à-dire que si vous dites « Je vais juste peindre un truc joli », on vous regarde en disant « Ah non, c'est fini ça, en fait ». Après, on va aller sur le surréalisme, le cubisme, Guernica. Il faut parler de la guerre, il faut parler de la souffrance. Et c'est, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est. Et les gens qui sont restés à une posture en disant « Je veux juste chanter la beauté du monde », on va leur dire « Excuse-moi, c'est plus trop le sujet ». Et puis, même chose après 39-45, est-ce qu'on peut écrire après Hiroshima, après Auschwitz, etc. Donc il y a des crises comme ça, et eux, ils arrivent à un moment où eux, ils écrivaient des trucs avec des fées, des dieux grecs, des animaux, tout ça à la campagne, et tout ça baigné dans une atmosphère de magie et de nuit étoilée, etc. Et ça, c'est terminé. C'est-à-dire, ils ne le savent pas encore, mais ils le pressentent, ils le sentent venir, et ça les rend dingues. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi tout peut pas continuer comme avant, quoi.
C'est un problème de croyance dans cette société-là, alors que finalement, dans l'esprit de ces auteurs, on n'est pas tellement dans de l'imaginaire dans ce qu'ils racontent.
Non, c'est vrai.
Ils les ont rencontrés, comme dirait David Vincent.
Oui. Il y a une ambiguïté dans le livre sur ce sujet-là. Et puis il y a aussi ce truc, mais qu'on retrouve dans Peter Pan notamment, qui est que les fées, c'est nous en fait qui les avons créées d'une certaine façon, au sens où en tout cas notre croyance leur donne vie, et si nous cessons de croire en elles, elles s'en vont. Et c'est ce qui se passe dans Golden Age. En parallèle avec le récit principal, il y a un récit d'exode, il y a un peuple qui vivaient à la frontière, qui pouvaient se montrer, c'est-à-dire que... Et moi, j'ai entendu ça même avec la grand-mère d'une amie dans le Berry, encore il y a une trentaine d'années, où elle racontait encore des histoires. Ça, c'est... Il y a des gens qui en ont parlé très bien, des sociologues, de la rémanence de la croyance en un autre monde, quelque chose qui est derrière le voile, quelque chose qui se passe certaines nuits, d'équinoxe, de pleine lune, ce que vous voulez. Moi, ma grand-mère et la grand-mère aussi d'une amie me racontaient encore des trucs. Ma grand-mère, elle me racontait des trucs, puis après, je me suis rendu compte que les histoires qu'elle me racontait, elles figuraient dans le matin des magiciens de Powell. Donc là, je me suis dit, ouais, bon, t'as peut-être un peu abusé. Mais elle voulait y croire, en tout cas. Il y a un type qui jouait de l'orgue dans l'église, mais en fait, le gars, il est mort depuis 10 ans. Ma grand-mère racontait ça. Bon. Et tant que vous baignez dans ce truc-là, tant que vous y croyez, ça existe un petit peu encore. Et puis, il y a le rationalisme. Et, bon. Mais c'est une question compliquée, parce que ça... Dieu est mort, enfin voilà, dans Michelet, c'est déjà assez ancien tout ça. Et puis on a toujours aussi, enfin cette impression souvent d'être arrivé dans le truc où ouais bah c'était mieux avant, on rêvait plus, on savait s'amuser, on savait rêver, etc. Et aujourd'hui, étrangement, il se passe des choses avec Internet et les intelligences artificielles, etc. qui non pas qui rappelle ça, mais qui offre d'autres possibilités de névrose assez merveilleuses avec des gens, par exemple, qui croient en l'amour avec une intelligence artificielle, tout en sachant que l'intelligence est artificielle, et quand le truc s'arrête, ils sont réellement malheureux. Je lisais ça dans un livre ce matin, quelqu'un qui est amoureux sur le net d'une autre personne qui n'existe pas, parce qu'elle a été fabriquée par quelqu'un d'autre. Et la personne qui fabrique cet alter ego choisit de faire mourir l'amoureuse en question. Et le gars, il finit par le comprendre. On lui dit, tu sais, la nana dont t'étais amoureux, que t'as jamais vue, ben, en fait, c'est normal, elle n'existe pas. Je l'ai inventée. Et le type, il dit, ouais, mais je suis en deuil quand même. Elle est morte pour moi. Bon. Donc, il y a aussi ce truc de, qu'est-ce que c'est... Enfin, c'est un vaste débat philosophique... la subjectivité, l'objectivité sur lequel le fantastique peut aussi croître, c'est-à-dire un fantôme, est-ce que c'est un truc que je vois, est-ce que c'est un truc que je suis seul à voir, est-ce que les autres peuvent le voir aussi, est-ce qu'à partir du moment où je suis seul à voir, ça veut dire que je suis simplement cinglé, ou est-ce que simplement j'ai un don pour voir les choses, voilà. Donc ce livre parle aussi de ça.
On a rapidement parlé de Béatrice, qui incarne un peu l'avenir au niveau de l'écriture. Elle n'est pas la seule à incarner l'avenir dans le roman. Il y a aussi une jeune fille qui pourrait, alors, quand on la découvre, quand on la rencontre, nous, lecteurs, on se dit, ah, mais elle est là, la relève. Elle est là, celle qui va peut-être trouver, justement, cette foi, cette envie d'aller vers ce merveilleux, de redécouvrir ces choses qui, visiblement, sont passées. Et puis, c'est un peu plus compliqué que ça, malgré tout.
Oui, oui, tout est... la vie est compliquée, et donc du coup le roman est assez compliqué aussi à cet égard-là, c'est-à-dire que les gens ne sont pas les porteurs d'une doxa inébranlable qui vont défendre Belzéong, tous ils ne savent pas trop où ils en sont, et un des intérêts pour moi aussi du roman, c'était qu'une fois qu'on l'a refermé, il y a plusieurs interprétations possibles, et on peut le voir comme quelque chose d'assez pessimiste, au contraire quelque chose d'assez optimiste. Et c'est vraiment au lecteur que revient ce choix. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important pour moi, cette ambiguïté qui laisse in fine la liberté au lecteur de choisir qu'est-ce qu'il en retire, quoi. C'est-à-dire qu'on lui mâche pas le travail, on lui donne des éléments. Bon, ça, c'est intéressant parce que c'est peut-être quelque chose qui est aussi tiré un petit peu du jeu de rôle, quelque part. Je me suis dit ça il n'y a pas longtemps, où finalement, l'aventure, nous, on, en tant que meneur de jeu, parce qu'on pouvait comparer ça à un écrivain, on a les éléments, mais en fait, l'histoire, c'est vous qui allez la faire. Et une expérience de lecture, c'est quelque chose d'éminemment subjectif, de la même façon que, si ça se trouve, quand je vous parle de la couleur bleue, je ne vois pas le même bleu que vous, mais on est à peu près d'accord pour dire que ça, c'est bleu, mais l'expérience, elle est intraduisible pour les autres et entre les lecteurs, ça peut être assez émouvant parfois de voir que des gens ont mis dans votre livre des choses que vous, vous n'y avez pas mis, en tout cas consciemment.
Et puis le mystère et le merveilleux sont liés, forcément, inextricablement même.
Oui, oui, mais pour moi, et c'est ça qui rend aussi, qui rend prégnante cette problématique sur la littérature générale, la littérature de genre, etc. Qu'est-ce que c'est le fantastique, c'est que ça peut se nicher n'importe où. On peut faire des drames psychologiques où il y a des gens, je le disais tout à l'heure, qui sont persuadés de quelque chose. Et qu'est-ce que c'est un fantôme? Un fantôme, c'est peut-être un souvenir. Un fantôme, c'est peut-être un fantasme. C'est la même étymologie. Hein. Ou c'est quelque chose que vous avez envie de voir. On a des croyances dans nos vies qui sont assez irrationnelles parfois. Alors qu'on va fustiger, on a l'impression de bien faire la différence. C'est ça qui est assez touchant aussi. Quand on lit un livre, on dit oui, je sais bien que les elfes, ça n'existe pas, etc. Voilà, il y a un consensus sur un certain nombre de trucs.
Mais prouvez-le.
Déjà. Mais et puis quand on va dans des choses plus profondes, plus diffuses, on se rend compte que oui, il y a toujours une ambiguïté. Et moi, c'est quelque chose que je cultive. Quelques années, je rencontre un lecteur dans un salon et qui lisait qui avait lu un de mes bouquins et qui dit je sais plus du tout où j'en suis. Et c'est pour moi, c'était un très beau compliment. Mais c'est aussi une conception particulière de la littérature qui dit que la littérature n'est pas forcément, enfin. J'allais dire, elle n'est pas votre amie. Elle peut être votre amie, mais un ami, c'est pas quelqu'un qui vous dit forcément ce que vous voulez entendre. C'est quelqu'un qui peut vous bousculer. C'est quelqu'un qui peut vous amener dans des endroits où vous n'avez pas forcément envie d'aller ou que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui peut vous sortir aussi de votre zone de confort, de ce que vous pensiez être, et qui peut vous bousculer dans vos repères, etc. Et donc, moi, c'est quelque chose de très important pour moi, ça, la littérature. Mais ce n'est pas la conception de tout un chacun, et ce n'est pas une conception qui va me rendre riche, parce que si vous voulez plaire au plus grand nombre, il faut être dans une perspective un peu œcuménique, et puis tout le monde a raison, etc. Et ça, je le voyais, justement, ce qui est assez amusant, c'est quand on interroge, puisqu'il est un peu dans l'air du temps, ChatGPT, par exemple, ChatGPT, on sent que c'est une entité qui n'a pas envie de vous faire de la peine, quoi. Donc, par exemple, si vous lisez deux bouquins, si vous lisez, je sais pas, Marc Lévy et Gustave Flaubert, j'ai fait l'expérience, j'ai pas lu les deux, j'ai lu que Flaubert, mais si vous dites c'est qui le meilleur écrivain, bah, ChatGPT va vous dire oula, c'est compliqué comme question. J'ai envie de dire non, c'est pas très compliqué. En vrai. Mais en revanche, si vous allez sur Babelio, par exemple, pour voir ce que les gens préfèrent, bah, le meilleur écrivain, c'est Marc Lévy. Il a de meilleures notes que Flaubert. Bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la littérature, ça, je pense que c'est une conception, justement, que je partage avec l'éditrice de Golden Age. Elle est censée... elle n'est pas là pour vous torturer ou vous mettre des baffes, c'est pas la question, mais c'est pas qu'une affaire de confort, et ce serait dommage si c'était le cas, c'est-à-dire que elle peut apporter tellement plus, elle peut vous déranger, c'est bien d'être dérangé, je pense, pour l'intelligence, c'est bien d'être confronté à d'autres intelligences, c'est bien de douter, c'est bien d'être perdu. Parce qu'on peut se retrouver et pas forcément au même endroit que celui où on était au départ, et c'est bien d'être bousculé parce que ça force aussi à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, etc. Et une littérature qui n'est là que pour servir les plats et pour dire aux gens, vous aimez bien les elfes, bah, je vais faire un truc avec des elfes. Vous préférez quand ils sont gentils, bah, ils vont être gentils. Bah, c'est sympa, vous avez passé du temps. Mais pour moi, voilà, la culture, ce n'est pas que ça.
En tout cas, moi, je fais partie des lecteurs masochistes qui aiment bien quand les auteurs les bousculent et les perdent un peu. Et c'est un aspect de Golden Age que moi, j'ai beaucoup aimé parce que on a l'impression d'entrer de plein pied dans un univers. Et puis, petit à petit, on a des certitudes qui sont remises en cause. Par petites touches, c'est vraiment pas des choses qui sont très... c'est pas des gros rebondissements hollywoodiens, des cliffhangers absolument stupéfiants qui vont nous laisser haletants et en disant « mais vite, vite, le prochain chapitre, je ne peux pas... » Non, c'est beaucoup plus finement fait et qui fait qu'on se pose effectivement des questions. Où est-on ? Dans quel univers véritablement sommes-nous ? Est-ce qu'on est vraiment dans le monde tel que je le connais et tel que je le perçois au quotidien ? Où est-ce qu'on est ailleurs? Qui sont vraiment certains personnages? Quel rôle ont-ils dans cette affaire? Il y en a un dont on n'a pas parlé, mais je pense que Fabrice ne veut pas qu'on en parle, donc on va le laisser de côté, mais vous le découvrirez, parce qu'il intervient ponctuellement et qu'il nous, là aussi, il vient interroger le lecteur et poser là aussi beaucoup de questions, en particulier la question du bien et du mal. Voilà, il y a énormément de petites touches comme ça qui interviennent et qui font que bah finalement, entre le moment où on a lu la première page et où on s'est dit « Ah, je te cerne, Fabrice Colin », et le moment où on referme le livre, on n'est plus du tout sûr d'avoir cerné ni l'auteur ni les personnages.
Oui, ce qui est très difficile aussi quand on écrit ce type de livre, c'est de soi-même pas choisir. Enfin, et ça, c'est une vraie question qui, moi, m'obsède pour un certain nombre d'artistes que j'admire, au premier rang desquels, par exemple, David Lynch. Et dans les derniers films de David Lynch, notamment Mulholland Drive, Lost Highway, Inland Empire, etc., qui prêtent le flanc à beaucoup d'interprétations. On peut dire aussi la même chose du Shining, de Kubrick ou d'autres films de ce genre. Moi, ce que je me demande toujours, c'est est-ce que les gens qui créent ces œuvres-là savent exactement ce qu'ils racontent, au sens où il y aurait un petit peu comme la Kabbale, un truc caché, mais en fait, si vous allez les chercher, c'est très clair. Mais moi, je ne vous dirai jamais ce que c'est. Ou au contraire, est-ce que je conçois un récit qui est volontairement un peu à géométrie variable, en essayant de moi-même pas répondre à un certain nombre de questions et en me disant c'est complètement ouvert, voilà. Et dans Golden Age, enfin pour moi, mais c'est pas très important en fait, mais ce qui est important, c'est quand on l'écrit qu'on sache ça. Pour moi, il y a deux interprétations du livre, voilà. Mais il y en a certainement plus, mais pour moi, j'ai écrit le livre en me disant il faut que les deux interprétations restent valides pendant tout le livre, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas une qui prenne le pas sur l'autre. Après, la façon dont moi je les conceptualise, et elle n'est pas importante pour le lecteur, et peut-être que le lecteur il aura une troisième interprétation qui n'est pas du tout celle à laquelle j'ai pensé, mais c'est vrai que quand on écrit, il faut qu'on sache un petit peu ce qu'on fait quand même. Et peut-être on dit, voilà, mon récit c'est ça, mais en fait il est caché sous une autre couche et vous ne le saurez jamais, ou alors mon récit c'est ça ou ça, j'ai pas choisi, mais par contre je sais que les deux peuvent coexister et c'est à vous de choisir, ou alors mon récit c'est je sais pas, j'ai écrit une histoire et démerdez-vous, ce qui est une possibilité aussi, mais c'est pas celle que j'ai choisie.
C'est étonnant parce qu'effectivement quand on parle là, on a l'impression qu'on a abordé des thématiques qui ne sont pas forcément des thématiques purement d'imaginaire, ou en tout cas on n'a pas forcément vu encore apparaître dans tout ce qu'on a dit des archétypes d'imaginaire. Or ils sont quand même présents, même si on peut peut-être dire qu'ils sont discrets, ou en tout cas qui ne sont pas forcément au cœur totalement du récit. Et c'est aussi intéressant parce que finalement ça donne cette part de mystère du lecteur par rapport au personnage. On ne sait pas vraiment ce que les différents personnages ont connu, savent, ce qu'ils ont vécu, que ce soit les plus âgés ou les plus jeunes. On est finalement dans cette, alors presque expectative d'une certaine manière. On peut échafauder mille hypothèses qui vont de la plus positive jusqu'à l'expérience la plus affreuse qui soit. Et finalement, bah voilà, ça donne un côté aussi très presque angoissant, d'une certaine manière, quand on sort du livre.
Oui, bah, en tout cas, comme je disais, enfin voilà, moi la personne qui me disait je sais plus où j'en suis, etc. C'est pas forcément, comment dire, on n'est pas dans le confort, mais bon, la vie c'est pas nécessairement le confort non plus. En tout cas, il y a effectivement une présence de surnature dans le livre, parce que sinon on ne serait pas ici à en discuter. Mais oui, encore une fois, il y a plusieurs hypothèses. C'est la question de la subjectivité et de l'objectivité. Et puis c'est la grande richesse de la littérature, pouvoir écrire par exemple à la première personne ou à la troisième personne. On s'en rend pas forcément compte comme ça, mais ça a des implications évidemment fondamentales. Et il y a des choses qu'on peut faire en littérature, et je me le dis souvent quand je vois un film, qu'on ne peut pas faire au cinéma, par exemple. Et jouer justement sur ce que c'est le lecteur, ce qu'il croit savoir, ce qu'on lui dit à mot couvert, ce qu'on lui cache. Rien que ces possibilités-là, hein, ça permet vraiment de jouer avec lui. Et le jeu, c'est vraiment aussi ce qui fonde l'âme humaine. Enfin, je veux dire, ce côté... je fais apparaître des choses devant toi. Est-ce que c'est truqué, est-ce que c'est pas truqué, etc. C'est Nabokov qui... décrivait l'écrivain comme un enchanteur. Moi, c'est quelque chose dans quoi je me retrouve pas mal. Et on n'est pas seulement, on parle pas seulement là de concept ou de construction, mais aussi d'écriture, de musicalité. On peut parfois endormir un petit peu le lecteur avec un style qui aurait des charmes comme ça, un petit peu élégiaque, et on lui dit, oh là, mais en fait, je suis en train de te raconter, je suis en train de t'endormir un petit peu, derrière ça, il y a autre chose. Toutes ces possibilités-là, voilà, on a essayé de les exploiter dans ce livre, et ce qui fait que, voilà, c'est, pour moi, ça, enfin, c'est compliqué de dire ça, mais c'est une littérature exigeante. Moi, c'est ce que j'aime en tant que lecteur, c'est-à-dire que j'ai envie qu'on me demande beaucoup de choses, parce que si on me demande beaucoup de choses, c'est qu'on me respecte et qu'on pense que je suis capable. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris, enfin, pour moi, c'est fondamental, y compris dans la littérature jeunesse, et surtout dans la littérature jeunesse. C'est-à-dire, quand on dit aux gens, oh là, mais ça, je suis pas sûr qu'ils vont comprendre. Moi, j'ai adoré, quand j'avais 15 ans, lire des livres que j'aurais pas forcément dû lire, parce qu'ils n'étaient pas exactement pour moi. On préfère avoir l'impression que on est un peu plus bête que le livre, que le contraire en vérité, parce que sinon on se dit, bah, en fait, pourquoi j'ai dit ça, je peux faire une grille de sudoku. Bon. Et voilà, donc, ce livre là c'est aussi un théâtre, et c'est pas pour rien qu'il y a toute une part qui fait référence aussi à Songe d'une nuit d'été, c'est à dire que c'est aussi une comédie, on vous montre des choses, il y a une certaine ambiance romantique, onirique, etc. Donc, qu'on vous fait rêver. Et puis, en même temps, peut-être que ce n'est juste qu'il y a un théâtre d'illusion et qu'il y a autre chose que vous allez devoir chercher derrière. Mais ça, c'est plus à moi de le dire. C'est-à-dire, l'écrivain, il fait le spectacle et ensuite charge au lecteur d'aller chercher ou pas ce qu'il veut là-dedans.
Et bien voilà, la boucle est bouclée entre Ornette Toubi qui nous a permis d'ouvrir la table ronde et Golden Age à la fin. Laissez-vous entraîner, laissez-vous envoûter par l'univers de Golden Age, qui est vraiment un roman voilà, très, très intéressant, très beau, très profond, avec énormément de choses. Je dis profond, mais en même temps, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses non plus, donc ce sera à vous de vous faire une opinion dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est le retour de Fabrice Colin à l'imaginaire, et ça, c'est une excellente nouvelle avec ce roman si prenant, si particulier. Et bah voilà, moi, j'étais ravi de pouvoir avoir cet échange avec Fabrice Colin. J'espère que vous aurez envie d'aller à sa rencontre sous la bulle du livre, de continuer pourquoi pas la conversation, et puis de découvrir son univers, ses univers, et sa plume et sa personnalité d'auteur si singulière. Merci beaucoup.
Merci.
Actu SF. Les podcasts.